Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck, donc avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Très heureux de vous retrouver pour l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin, le grand retour en direct, puisque vous savez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'émissions ces derniers mois. Un événement personnel et puis ensuite la grève dans les transports qui a rendu les déplacements un peu difficiles. Mais voilà, on est de retour en direct pour la première émission de cette année 2020 qui aura pour thème le départ en retraite du plus ancien TGV. Et avec moi pour en parler, je reçois Antoine Leroy qui est formateur à la conduite des TGV. Antoine Leroy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent avec nous dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à toute vapeur. Alors là, pour le coup, on va plutôt s'intéresser du côté électrique. On va remonter, si vous voulez bien. Tout d'abord, Antoine Leroy, je demande toujours à l'invité de présenter un peu l'entreprise pour qui il travaille. Est-il besoin de présenter la SNCF ? Mais on va le faire quand même parce que c'est un groupe qui est présent aussi à l'étranger, le groupe SNCF.
Ah oui, absolument. Le groupe SNCF est présent à l'étranger à travers ses filiales de transport. Qui développe aussi bien du ferroviaire que du transport urbain. Donc on se développe dans le monde entier, absolument.
On va remonter quelques années en arrière, dans les années 1960. Jean Bertin, qui était un ingénieur, a redécouvert le principe du coussin d'air et a créé un aérotrain. On a consacré d'ailleurs une émission à toute vapeur sur ce mode de transport. La SNCF était d'ailleurs très intéressée puisqu'elle voulait accélérer la vitesse de ses trains. Et puis finalement, la SNCF s'est désistée, s'est tournée sur un mode plus classique, donc sur rail, et on a créé tout d'abord un TGV à turbine à gaz, c'est ça, Antoine Leroy?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que dans les années 60, effectivement, la vitesse des trains plafonnait à 150-160 km/h. Et donc, on se posait la question de l'innovation du matériel ferroviaire. Il y avait en parallèle l'aérotrain de l'ingénieur Bertin. Et donc, il y avait des options qui s'offraient à nous à l'époque. Soit on glissait vers un mode de transport tel que celui de l'ingénieur Bertin, ou alors on se renouvelait, mais toujours en restant dans du ferroviaire pur. Et donc est né le TGV 001, qui est l'ancêtre du TGV tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il avait cette particularité d'avoir une propulsion par turbine à gaz, qui est ni plus ni moins une turbine d'hélicoptère, sauf qu'elle n'est pas dans un hélicoptère, elle est dans un train.
Pourquoi on a abandonné finalement ce mode de transport pour se tourner plus vers l'électricité ?
Alors, il faut aussi voir que le TGV 001 à ses débuts dans les années 70, on est avant le choc pétrolier, que le choc pétrolier est passé par là, et qu'on arrive aussi à la limite de la propulsion dite thermique. Et donc, on va effectivement, après 73, réfléchir à une propulsion type une traction électrique. Et donc, à ce titre-là, il y a eu plusieurs prototypes, parce que se dire on va tracter de façon électrique un train, c'est une chose, mais il y a plein de choses auxquelles il faut réfléchir. Il faut savoir que le TGV, c'est une multitude d'innovations. On a repensé plein de choses, et notamment le pantographe, qui est cet organe qui se lève sur le toit du train pour capter l'électricité. Jusqu'à présent, on savait faire des pantographes qui captaient l'électricité pour des vitesses de 160 ou 200 km/h, comme le Capitole. Mais le TGV, c'était des vitesses de 260 km/h. Donc le risque, c'était que justement ce pantographe ne puisse pas aussi bien capter l'électricité. Et donc, il y a eu plusieurs prototypes qui ont été mis au point dans ces années 70, en parallèle du TGV 001, qui est ce fameux TGV à turbine à gaz, pour aboutir par la suite, et on en parlera, je suppose, après, au premier TGV.
Donc, il a été choisi ce mode de transport, et il a fallu repenser les lignes, puisque les lignes classiques sont trop sinueuses, où il y a trop de montées, trop de descentes pour pouvoir utiliser un TGV sur une ligne classique. Enfin, tout au moins le faire aller très vite sur une ligne classique.
Alors, pas forcément. Il faut savoir que la première ligne à grande vitesse, qui est la LGV, donc la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, a énormément de déclivité, notamment dans le Morvan. On a des pentes qui sont à 35 pour 1000, ce qui paraît pas grand-chose, mais qui pour un train de 400 tonnes est quelque chose de relativement important. En revanche, effectivement, comme vous le soulignez, c'est plutôt la notion de courbe et de rayon de courbure où, en fait, le TGV, pour pouvoir rouler vite, a besoin de courbes qui ne sont pas serrées et pour pouvoir justement atteindre des vitesses de 260, 270, puis 300 km/h.
Comme vous l'avez dit, Antoine Leroy, je rappelle que vous êtes formateur à la conduite des TGV. Donc, on décide de construire une ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon. Et on construit un exemplaire d'un TGV. Donc là, on parlait tout à l'heure de prototype. Et là, c'est une machine de série.
Alors voilà, après cet ensemble de prototypes, chaque prototype servait à tester un ou deux appareillages. Donc il y avait un prototype pour le bogie, un autre pour le pantographe, un autre pour le moteur, pour la motorisation, et puis avec ce TGV 01, le fameux Patrick dont on parle tant en ce moment, eh bien c'est l'ensemble des dispositifs testés qui prennent enfin vie à travers un seul et même train. On est en 1978 et cette première rame sort d'usine.
Justement, vous l'avez dit, ce TGV a un prénom qui s'appelle Patrick, et ça me fait toujours penser à ceci.
Alors, on n'attend pas Patrick ?
Extrait donc du film bien connu, bien sûr. On vous l'a souvent dit, ça, je pense, Antoine Leroy.
Alors, surtout dernièrement, puisque en fait, sur les réseaux sociaux, le départ de ce TGV 01 appelé Patrick renvoie forcément à ce film, donc c'est plutôt marrant, oui. On nous le dit souvent.
Revenons donc à Patrick, première machine de série Patrick, et on fera des tests entre 1978 et 1981, qui sera l'ouverture de la liaison sur la ligne à grande vitesse, auparavant sur Strasbourg, hein, si mes souvenirs sont exacts.
Alors effectivement, on parle beaucoup de Patrick, qui est la première rame, mais en réalité Patrick avait une petite sœur qui s'appelait Sophie, qui était la rame 2. Ouais. Pourquoi Patrick et Sophie? Il y a énormément de légendes autour de ça. On en reparlera peut-être après. Effectivement, il y a deux rames dites de pré-série qui ne sont pas des prototypes, qui sont des rames de pré-série qui vont tester en fait tous les équipements qui ont été choisis auparavant sur les prototypes. Et donc pendant 2 ans, de 78 à 80, on va tester ces deux rames dans la plaine d'Alsace. Alors pourquoi la plaine d'Alsace? Déjà parce que c'est à côté des usines Alstom de Belfort, et qu'en plus cette plaine d'Alsace, c'est une longue ligne droite où on peut rouler à 200 km/h sous 25 000 volts, qui sera le courant qui servira à l'électrification de la future ligne à grande vitesse Paris-Sud-Est. Donc on arrive vraiment à reproduire presque les mêmes conditions que sur la future ligne à grande vitesse, qui à l'époque n'est pas terminée, n'est pas achevée. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on va tester ces rames sur la plaine d'Alsace, mais pas uniquement sur la plaine d'Alsace. Et on va les tester notamment dans la rampe de Cap Verne, qui se situe à côté de Tarbes, entre Toulouse et Tarbes, et qui a la particularité d'avoir une forte déclivité de 33 pour 1000. Et donc justement, ça reproduit ces déclivités qui seront connues sur la future ligne à grande vitesse, notamment tout ce qui est démarrage en rampe, parce que rouler à 260 ou 270 km/h, c'est une chose, mais si jamais pour une raison ou pour une autre, on est arrêté en pleine voie au pied d'une de ces rampes, il faut pouvoir repartir.
Qu'on imagine un peu la puissance. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur la puissance du TGV, Antoine Leroy?
Alors, sur une rame sud-est, alors il faut savoir que les rames sud-est, déjà pour commencer et pour que les auditeurs puissent comprendre, elle peut fonctionner sous deux types de courant. Le premier courant, c'est un courant continu, 1500 volts continu, qui est le courant qu'on connaît depuis le début du première moitié du XXe siècle. Et le 25 000 volts alternatif, qui est le courant qui équipe notamment donc les lignes à grande vitesse. Donc sous 25 000 volts alternatifs, ces rames développent plus de puissance pour pouvoir rouler plus vite. Donc quelques chiffres, en 1500 volts continu, c'est de l'ordre de 3300 kW. Et sous 25 000 volts, c'est un peu plus de 6000 kW.
C'est énorme hein, quand même. Patrick et Sophie vont faire leur test, comme vous l'avez dit. Alors on précise qu'Alstom, c'est le constructeur, bien sûr. Hein. Patrick et Sophie vont faire leur test. On en arrive à l'inauguration de la ligne à grande vitesse, qui a d'abord été entre Paris et Dijon et ensuite sera prolongée jusqu'à Lyon. Hein. Elle a été faite en deux fois.
Elle a été faite en deux fois. On est le 22 septembre 1981. Elle est inaugurée par le président Mitterrand. Et donc, en fait, le premier tronçon, les TGV, en réalité, prennent la ligne dite classique jusqu'à Virginie, qui est dans l'Yonne, à 154 km de Paris. Et donc, il y a une première section qui est entre Virginie et Lyon. Et donc, à l'époque, lors de l'inauguration, il faut bien se rappeler que les trains roulent à 260 km/h et Lyon est à 2h30, 2h40 de Paris. L'année d'après, un an plus tard, les trains, la deuxième section de la ligne à grande vitesse est ouverte. Donc là, les TGV circulent entre Paris et Lyon à grande vitesse. Lyon n'est plus qu'à 2 heures de Paris et on a augmenté la vitesse des trains, la vitesse limite, de 260 à 270 km/h.
Et Patrick va devenir en fait une rame voyageur lambda.
Alors oui, Patrick, comme Sophie d'ailleurs, seront deux rames voyageurs noyées dans la masse des 109 rames qui seront commandées par la suite. Mais pour les cheminots et pour les agents, les passionnés, ça restera toujours une rame, enfin ou deux rames à part, tout comme la rame 16 qui a battu le record du monde de vitesse à 380 km/h.
Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette décennie des années 80 pour Patrick Antoine Leroy ?
Alors, déjà, il faut aussi se rappeler qu'après les essais, les commandes sont lancées, les essais sont validés, et pendant l'année 80, un an avant l'inauguration de la ligne à grande vitesse, les TGV roulent en commercial sur des trains classiques, notamment le train qui s'appelait le Lyonnais. Ces circulations, elles ont plusieurs avantages. C'est qu'elles peuvent permettre à l'époque aux conducteurs, aux contrôleurs de se familiariser avec la conduite de ces trains, d'une part, mais aussi de permettre à tout le personnel de maintenance d'effectuer des opérations et de roder les rames. Ce qui fait que quand on est en 1981, ce jour du 22 septembre de l'inauguration, le produit est rodé et on connaît les pannes éventuelles qui peuvent arriver, on est complètement réactif. Ça, c'est la première chose. On est en 1981 et effectivement, c'est le lancement du TGV. Ce lancement est très rapidement salué par la presse et aussi par les voyageurs qui le plébiscitent. Et pour l'anecdote, il suffit de voir très rapidement autour des gares, il y avait le café du TGV, le tabac du TGV, le bureau de presse du TGV. Voilà, c'était vraiment un signe de reconnaissance et de succès de ce train.
Effectivement. D'ailleurs, j'ai une anecdote, Antoine Leroy, parce qu'il m'est arrivé de prendre plusieurs fois le TGV, et notamment en allant sur Marseille. Et à un moment donné, où quand le TGV sort de la ligne à grande vitesse, forcément, il ralentit. À la sortie de la ligne à grande vitesse, vous aviez une grande affiche qui vantait je ne sais plus quel produit, avec une femme à moitié dénudée et marqué « Devinez pourquoi le conducteur a ralenti ».
Voilà. Ah, petite anecdote. Je ne l'ai pas en tête, mais... On reste quand même concentré sur la voix,
oui.
Mais je pense que c'est un bon argument publicitaire.
Exactement, Antoine Leroy. Alors vous êtes toujours conducteur, enfin surtout formateur. Vous avez eu l'occasion déjà de conduire Patrick avant cette tournée d'adieu.
Alors avant non, parce que depuis 2002, elle était les rames sud-est pour moitié d'entre elles étaient sur l'axe nord, donc au départ de la gare du Nord. Donc sur les Paris-Lille, les Paris-Dunkerque, Valenciennes, etc., toutes ces destinations-là. Donc je n'ai pas eu la chance de la conduire avant cette tournée d'adieu, mais là je me rattrape encore ce matin, et donc c'est un vrai plaisir de la conduire, mais j'ai eu la chance de conduire la rame 4402, qui est détentrice du record du monde à 574,8 km/h, et c'est une grande joie, une grande fierté quand on l'entre ses mains.
J'imagine, Antoine Leroy. N'hésitez pas à poser des questions par Internet. Comme d'habitude, on gardera quelques minutes en fin d'émission pour vous poser des questions. Auparavant, on va marquer une pause musicale et j'ai choisi un titre qui est d'actualité, hein, justement. Le groupe Électrique, je ne sais pas si vous connaissez, qui a sorti un titre qui s'appelle tout simplement « Train grande vitesse ». Et on entend le petit carillon qu'on entend pour vous annoncer que le TGV en provenance de Paris va rentrer en gare. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Je vous rappelle que nous parlons du départ en retraite du plus anciens TGV. À tout de suite.
Train grand vitesse.
IDFM Radio Anguin, il est 17h passé de 32 minutes. C'est l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Antoine Leroy est mon invité, il est formateur à la conduite des TGV. On parle aujourd'hui du départ à la retraite du plus ancien TGV qu'on a surnommé Patrick. Antoine Leroy, justement, j'aimerais qu'on parle un peu d'anecdotes. Et tout d'abord, pourquoi ce prénom? C'est curieux.
Alors, pourquoi ce prénom? En fait, il y a une légende depuis l'arrivée de Patrick. Autour des deux premiers prénoms, donc de Patrick, la rame 1, et Sophie, la rame 2, certains disent que Patrick, Sophie, ça veut dire pré-série, Paris, Sud-Est, premier, second. En réalité, la réponse que nous apporte Jean-Marie Messler, qui était le chef de projet jusqu'en 1981, donc le papa du TGV, c'est la réponse suivante, c'est que les deux premiers conducteurs qui étaient du dépôt de Strasbourg ont surnommé leur rame, parce qu'ils avaient des rames attitrées, du nom de leurs enfants respectifs, donc Patrick pour le premier, Sophie pour le second. Et ces deux prénoms avaient aussi pouvaient permettre lors des essais de bien différencier les rames quand elles s'appelaient entre elles pour faire des essais par exemple. Et Jacques Ruiz, qui est l'un des artisans du record de 1980, en l'évoquait aussi.
On parlait de chiffres tout à l'heure, Antoine Leroy. Alors en 41 ans, hein, c'est ça, depuis que Patrick roule, hein, il a roulé 41 ans, il a fait beaucoup de kilomètres. Hein.
Alors, aujourd'hui, Patrick totalise 13 500 000 kilomètres, voilà, presque 14 millions.
C'est énorme, donc ça représente plusieurs fois le tour de la Terre.
De la Terre, la distance Terre-Lune, oui, effectivement, c'est des sommes qui sont de kilomètres cumulés qui sont considérables. Il faut bien voir qu'une rame TGV parcourt la France entière. Au tout début, en 1981, ces rames dites Paris-Sud-Est étaient un peu cantonnées sur Paris-Lyon. Et très rapidement, leur rayon d'action a été étendu. Et du coup, on les a retrouvés à Nice, à Strasbourg, à Nantes, à Genève, à Lille. Face au succès justement du TGV, là où le train était pensé comme un train Paris-Province, Province-Paris, sont nées des relations en TGV dites intersecteurs. Et on a eu notamment assez rapidement, dans les années 80, pour rejoindre votre question de tout à l'heure sur le qu'est-ce qui s'est passé dans la seconde moitié des années 80, on a eu par exemple des Lille-Lyon en TGV.
Effectivement, oui. Et Patrick a changé de livrée. Alors, ce qu'on appelle la livrée, donc c'est la couleur, parce que on se rappelle de cette couleur orange et blanche.
Alors, Patrick, comme toutes les autres rames, effectivement, comme ces fameuses 109 rames TGV Sud-Est, il y a eu plusieurs opérations. En 1989-91, il y a eu une opération dite confort esthétique, c'est-à-dire qu'on a tiré les premiers enseignements des retours de nos clients et on a réaménagé le bar qui était selon les retours des clients trop petit, trop exigu. Donc on est en 91, on a aussi refait la sellerie, l'intérieur des différentes voitures de première et de seconde classe. Et en 1989, arrive un petit nouveau qui s'appelle le TGV Atlantique, au départ de Montparnasse, avec des rames gris, argenté, bleu, qui roulent à 300 km/h. Et donc, le orange des TGV Sud-Est devient un petit peu désuet. Et face à cette arrivée du TGV Atlantique, la SNCF doit apporter une réponse. La réponse, c'est une première rénovation lourde. Et les TGV Sud-Est vont progressivement quitter ce orange d'origine pour un bleu atlantique comme les TGV Atlantique. La dernière rame 80, la rame 84 est sortie bleue pour l'ouverture de la ligne à grande vitesse Méditerranée. Donc pendant plusieurs décennies, elles ont roulé avec ce fameux bleu. Et puis on est en 2010 et on se pose la question, est-ce que c'est la fin pour les TGV Sud-Est ou au contraire, est-ce qu'on leur accorde un dernier sursis? Et on s'est dit non, en fait ces rames, elles ont encore du potentiel, elles peuvent rouler. Et donc on en garde quelques-unes et on leur donne une dernière livrée qui est la livrée dite Carmillon, qui est la même livrée que les rames actuellement, que les rames qui sortent d'usine, et avec un nouvel intérieur, des espaces qui sont réaménagés, repensés, si bien que les gens qu'on transporte se disent mais finalement elle a les mêmes standards qu'une rame qui sort d'usine. Et d'ailleurs, au cours des différents parcours dans les technicentres pour cette fameuse tournée de revoir à cette rame Patrick, c'était assez la réaction des agents était assez marrante, puisqu'ils disaient mais en fait elle est aussi confortable qu'une rame qui sort d'usine. Et c'est notamment la réaction des agents du technicentre d'Atlantique qui maintiennent les rames de la gare Montparnasse, qui ne connaissaient pas ces rames puisqu'elles n'étaient pas en entretien chez eux. Et quand ils sont montés dedans, ils nous ont dit mais finalement elle a pas à rougir des rames qui sortent d'usine actuellement.
Effectivement, Patrick Leroy, Antoine Leroy, pardon. Voilà, on se mélange avec
non,
les.
Non, mais je me reconnais dans Patrick.
Antoine Leroy, après avoir roulé près de 14 millions de kilomètres, hein, c'est ça que vous avez dit.
Oui, 14 millions.
On décide d'octroyer la retraite. On parle beaucoup des retraites en ce moment. Voilà, on décide d'octroyer la retraite à Patrick. Alors, ce qui m'étonne, c'est que pourtant, on voit encore du matériel banlieue. Moi qui emprunte le réseau de Paris-Saint-Lazare, on a du matériel qui a plus de 50 ans d'âge. Donc, on pourrait se dire, bah, Patrick a encore du potentiel.
Alors, le matériel qui a encore 50 ans d'âge à la banlieue, il en reste plus beaucoup, puisqu'on a les derniers petits gris qui étaient les Z5300 ont quitté la gare de Lyon il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, qui ont été remplacés par des nouvelles Régio 2N. Là, actuellement, il y a quand même une grande politique de renouvellement du parc sur l'Île-de-France. Et les dernières rames un peu plus anciennes sont vraiment vouées à disparaître dans les prochains mois, prochaines années. Mais on peut pas comparer un matériel en termes d'utilisation et de sollicitation un matériel banlieue avec du matériel TGV. Un matériel TGV roule à 300 km/h quand il pleut à Paris et qu'il fait beau à Marseille. Ou l'inverse, pour pas fâcher les Parisiens, faut aussi se représenter les contraintes thermiques que ça peut avoir sur le matériel. Donc c'est des sollicitations qui sont énormes, et donc les kilomètres emmagasinés restent là. Il y a quand même des rénovations au fil de la vie d'une rame, des rénovations lourdes où en fait on va désosser l'intégralité de la rame, on va tout recâbler, on va tout vérifier. C'est pas que de la peinture extérieure, hein. Tous les organes sont changés et révisés, mais il y a aussi des normes qui sont extérieures finalement à la SNCF qui évoluent. J'ai pour exemple les normes d'accessibilité, les normes environnementales sur quelque chose de tout bête, mais le liquide des WC, le liquide bleu qu'on avait avant dans les trains, il y a des normes environnementales qui imposent maintenant d'avoir des WC à l'eau claire. Et donc tout ça évolue et tout ça est contraignant quand on veut prolonger la durée de vie d'une rame, et c'est tout ce à quoi réfléchissent ce qu'on appelle l'ingénierie viscérie de la SNCF. Et il y a un moment où le coût est trop élevé pour prolonger la vie d'une rame, et on décide de la retirer du service.
Vous voulez dire, Antoine Leroy, qu'un TGV s'use plus vite en fait que du matériel banlieue ou un corail, un intercité
Il ne s'use pas plus vite, mais il parcourt beaucoup plus de kilomètres. Donc de fait, c'est comme une voiture, entre une voiture qui roule à la même vitesse, mais celle qui a 50 000 kilomètres et celle qui en a 300 000, il y en a une qui, au bout d'un moment, va tomber en panne un peu plus souvent ou sera un peu plus fatiguée. Et voilà. Bah, un train, c'est pareil. Il y a des limites, ce qu'on appelle des limites de potentiel. Donc, on ne doit pas dépasser un certain nombre de milliers de kilomètres ou de millions de kilomètres. Tout ça est extrêmement régi, réglementé, surveillé par le PSF, qui est l'établissement public de sécurité ferroviaire. Et on ne peut pas dire à un train, bah voilà, on l'aime bien, donc on le prolonge encore 10 ans. Il y a vraiment des normes qui définissent tout ça, et il y a un moment donné où malheureusement, il faut que ça s'arrête, même si ceux qui adorent ce train aimeraient qu'il continue plusieurs années. Mais je dois rappeler que la direction du patrimoine, la direction de l'image de la SNCF a préservé la rame 16, qui est détentrice du record du monde de février 1981. Donc elle est préservée, et celle-là, elle bougera pas.
Et Antoine Leroy, donc c'est ainsi qu'est venue la décision de mettre Patrick à la retraite. Et il a été organisé donc une tournée d'adieu, vous l'avez évoqué tout à l'heure durant cette émission, une tournée d'adieu des technicentres, c'est-à-dire des centres de maintenance sur Paris, pas seulement sur Paris, sur toute la région.
Sur toute la France, on peut dire ça. Les technicentres, qui sont les ateliers de maintenance du TGV, sont en majorité en région parisienne. Néanmoins, il y a deux technicentres dits industriels. Donc, je vous parlais tout à l'heure des grosses rénovations où on va désosser la rame. Il y a deux technicentres qui sont en charge de ces opérations, qui sont le technicentre de Bischheim à côté de Strasbourg et d'Elem à côté de Lille. Et donc, ils ont connu cette rame puisqu'ils ont participé à toutes les opérations de rénovation sur ces rames. Et ils ont du coup accueilli cette tournée dans leurs murs, au même titre que les technicentres parisiens.
On parle donc des cheminots qui font l'entretien, mais est-ce que le grand public peut accéder aussi à cette tournée d'adieu ?
Alors pour l'instant non, mais il y a une réflexion qui est en cours au sein de l'entreprise face à l'engouement et au succès de cette tournée déjà en interne. Il faut savoir que sur certains sites, on a dépassé 600 visiteurs par jour, rien qu'en interne. Et donc, il y a une réflexion qui se poursuit pour éventuellement exposer la rame. Donc voilà, le mieux, c'est de rester connecté sur les différents réseaux sociaux et on informera les gens et c'est ce qu'on souhaite vivement.
On donnera d'ailleurs toutes ces informations en fin d'émission. Que va devenir Patrick ? Eh bien, c'est ce qu'on dira dans un instant après une nouvelle pause musicale. Et j'ai recherché en préparant cette émission, Antoine Leroy, je me disais, que pourrait dire Patrick s'il pouvait parler ? Eh bien, j'ai trouvé une chanson qui représente bien ce qu'il pourrait dire. On écoute tout de suite, on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Dernière partie de cette émission entre chiens loups, rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Et aujourd'hui, on parle du départ en retraite du plus ancien TGV qui s'appelle Patrick. Et mon invité est Antoine Leroy, il est formateur à la conduite du TGV. Une petite réaction sur cette musique, c'est vrai, c'est ce que pourrait chanter Patrick, hein. Je vais vite.
Ah, si Patrick chantait, oui, il pourrait chanter du Laurie.
Alors, il a commencé, Patrick, à 260 km/h. Ensuite, la vitesse des TGV a été augmentée petit à petit. Est-ce qu'il a fallu faire des opérations lourdes sur Patrick pour qu'il puisse atteindre cette augmentation de vitesse ou...
Alors, en fait, la modification de 260 à 270 km/h s'est réalisée très vite. C'est-à-dire, on est en 1981. Un an après, les rames roulaient à 270 km/h. En revanche, quand les TGV Atlantique sont arrivés, ces rames, elles, d'entrée, pouvaient rouler à 300 km/h. Donc là, à la faveur de l'opération de modernisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a modifié énormément les rames, on a amélioré la ventilation, on a des blocs moteurs, enfin de tout le compartiment moteur. Pour que on a modifié le rapport d'engrenage. Donc oui, effectivement, ce sont des opérations très très lourdes.
Et Patrick n'est pas apte en revanche aux 320 km/h comme sur la ligne de Strasbourg.
Ah non, Patrick, non. Patrick se ménage et Patrick se limite à 300 km/h, ce qui est déjà très bien. Il faut bien se rendre compte de l'importance de ces modifications en 40 ans de carrière, si je puis dire. Il y a eu énormément de rénovations, de modernisations. Et donc, c'est quand même assez conséquent. Donc c'est un exploit 40 ans plus tard de faire rouler la même rame à 300 km/h.
Cette tournée d'adieu donc a été organisée par Train Expo, hein, c'est bien ça ?
C'est ça, mes complices de Train Expo.
Et vous étiez en train de me dire hors antenne, ce matin vous avez fait un Lille-Paris, c'est ça, avec Patrick ?
Ce matin alors c'est Train Expo et aussi une personne qui s'appelle Benjamin Hutto et que je tiens à remercier, qui est le directeur des opérations industrielles, qui a cru en ce projet, notamment pour remercier les agents entre des technicentres. Et je trouve que c'est bien de le dire. Et effectivement, ce matin, on a ramené la rame de LM, qui est le technicentre à côté de Lille, vers Paris pour une prochaine exposition. Et à chaque fois, c'est assez stupéfiant de voir l'engouement, pour pas dire la ferveur autour de cette rame. C'est-à-dire qu'on ne communique pas à l'externe sur les horaires de ce train, puisque ce sont des passages sans voyageurs. Et néanmoins, on se retrouve avec une centaine de personnes sur le quai, que ce soit à Lille ou à Paris. Des parents, j'ai cette anecdote en tête, notamment quand on a amené la rame de nuit à Lille, où à 23h en gare de Lille Europe, il y avait des gens derrière la vitre qui essayaient de prendre des photos. Ou quand on allait à Strasbourg sur cette fameuse LGV Est, il pleuvait de façon relativement importante, et malgré ça, on avait des gens sur les ponts, des familles avec des enfants qui nous faisaient coucou. Donc c'est très touchant, ça nous fait chaud au cœur de voir cet engouement et cette quelque part, c'est une fierté nationale, donc c'est vraiment très touchant. Et puis ça montre que le TGV, c'est le train des Français.
Effectivement. Et ce qu'on n'a pas précisé, enfin si, je l'ai dit tout à l'heure, Patrick a repris sa couleur d'origine, hein, orange et blanc.
Alors sur une partie, il a les trois livrets qu'il a portés au long de sa carrière. Et ça, c'est l'idée de Benjamin Huteau, que je trouve effectivement assez original, c'est-à-dire qu'on a peint la première motrice en orange, puis quelques remorques en livrée carmillon, qui est la dernière livrée, puis le bleu au milieu, qui est ce bleu atlantique qu'elles ont eu entre 2000 et 2010, puis la dernière motrice, qui est la motrice de queue, à nouveau en orange. Donc du coup, sur 200 mètres de long, qui est la longueur du TGV, on a les trois livrées sur 40 ans d'utilisation.
Effectivement, alors ça doit faire de belles photos, Antoine Leroy.
Il y en a il y a des gens, alors dans les gares, il y en a sur les ponts, il y a des photographes partout. On a même des gens qui nous mettent des panneaux merci, qui nous suivent régulièrement à travers nos voyages.
Il nous reste peu de temps, Patrick. Pardon, Antoine Leroy, décidément.
Non, mais terminé avec Patrick, je vais lui faire.
J'aimerais savoir justement que va devenir Patrick après. J'espère qu'il va pas être ferraillé. Quoi.
Alors non, il sera pas ferraillé. Ce que je peux vous dire, parce que il y a énormément de projets de préservation autour de cette rame, donc je peux pas tout dévoiler. Il y a des projets. Alors déjà en préambule, ce qu'il faut expliquer, c'est que préserver et maintenir une rame qui fait 400 tonnes, 200 mètres de long, on la met pas au fond d'un jardin. Donc ça, c'est la première chose. On a déjà la rame 16, qui est la rame détentrice du record. Et on a une équipe d'agents dont je fais partie qui régulièrement la mettent sous tension. On l'avait exposée notamment l'année dernière aux Journées du patrimoine de La Rochelle, avec 400 visiteurs, qui sont venus nous voir. Donc on a déjà cette rame TGV Sud-Est. Et donc la rame 1, son avenir, il y aura une partie qui ira probablement peut-être à la Cité du Train, c'est de Mulhouse, une autre partie qui iront peut-être dans des technicentres, parce que ces technicentres sont très très attachés à ce patrimoine de l'entreprise. Voilà, donc il y a plein de projets qui sont en cours de réflexion, mais elle sera pas ferraillée.
On va terminer par les questions d'auditeurs. Antoine Leroy, je rappelle que vous êtes formateur à la conduite du TGV. Alors justement, j'ai un jeune auditeur là qui m'écrit, qui me dit j'ai 12 ans, j'aimerais devenir conducteur de TGV, comment faut-il faire ?
Eh ben, je vais répondre à cet auditeur la même chose que m'avait répondu le conducteur avec qui j'avais eu la chance de faire un trajet en cabine quand j'avais 9 ans. Et qui m'avait dit en sortant de sa cabine, Antoine, si tu veux être conducteur de TGV, il faut bien travailler à l'école. Voilà. Alors, je lui souhaite de réussir parce que c'est un très beau métier. Et il faut croire en ses rêves et il faut travailler à l'école. Et il faut surtout croire en ses rêves et pas se dire que c'est impossible.
Quel plaisir, et ça c'est Stéphane qui nous dit ça, quel plaisir d'être à bord du TGV à 300 km/h, et combien j'envie le conducteur. Bravo à Patrick, bravo à tous ceux qui ont travaillé et œuvré pour Patrick.
Voilà. C'est gentil, ça nous touche. Effectivement, on reçoit beaucoup de messages comme ça, et je pense que toute l'équipe de conduite, mais aussi ceux qui entretiennent et qui ont travaillé dans ces rames ou à côté de ces rames, je pense aux chefs de bord, aux contrôleurs, aux agents d'escale, à ceux qui aiguillent aussi, qui travaillent dans les postes d'aiguillage des lignes à grande vitesse. On est tous très fiers de travailler sur ce beau train.
On n'attend pas Patrick. Ah, j'adore le pseudo. On n'attend pas Patrick qui nous demande, on parle donc de cette rame 001. Est-ce que c'est la première rame TGV qui part à la retraite ou est-ce qu'il y en a qui ont précédé Patrick?
Non, c'est la première rame qui a circulé, le vrai premier TGV, mais c'est pas le premier TGV à partir à la retraite.
On a parlé aussi, ça c'est Jean qui nous dit ça, on avait entendu dire pendant un moment que les TGV qui avaient déjà beaucoup d'années de vie allaient terminer leur carrière en train classique, c'est-à-dire en roulant moins vite. Où en est ce projet ?
Non, le projet, il y a effectivement eu des essais qui n'ont pas été concluants pour diverses raisons, mais ce projet est abandonné.
Merci aux auditeurs qui ont posé des questions. Pour terminer, Antoine Leroy, est-ce qu'il y aurait certaines choses que vous voulez rajouter avant de conclure cette émission à toute vapeur ?
Alors, je voulais vraiment remercier du fond du cœur les gens qui viennent nous voir, qui nous applaudissent quand on descend des gares. On a l'impression que Patrick, c'est une rockstar qui fait une tournée, donc c'est absolument hallucinant. C'est vraiment vraiment merci de venir, merci de montrer cet attachement à ce train, et c'est grâce à cette ferveur, à cette passion qu'on peut réfléchir à faire quelque chose un peu plus en externe. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes, que ce soit Benjamin Hutto, Train Expo, l'agence qui a réalisé l'exposition à l'intérieur. Et aussi les personnes de la direction de la communication et de l'image du groupe SNCF, justement, qui nous accompagnent dans ce projet un peu fou, mais tellement passionnant.
Une dernière question très rapide. Que devient Sophie ?
Ah bah Sophie, elle a précédé Patrick, elle est déjà à la retraite.
Ah. D'accord, et voilà. Merci en tout cas Antoine Leroy, je rappelle que vous êtes formateur à la conduite des TGV. Merci d'avoir participé à cette émission, merci à Train Expo, Julie Jaunet, qui est directrice de la communication de Train Expo, et pour que cette émission ait pu se réaliser, à tous les auditeurs qui ont participé. On termine, on se donne rendez-vous dans une semaine pour l'émission À toi les étoiles, et très rapidement je vais le dire aux auditeurs, ça n'a rien à voir avec À toute vapeur, mais vous avez été nombreux à demander de nouveaux épisodes radiophoniques. Il y en aura. On va parler d'Apollo 13. On en reparlera plus en détail la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. On recevra Alain Carillon qui va venir nous parler des météorites. Voilà, on se quitte avec le générique de l'émission. Et rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle émission À toute vapeur. Et sinon, la semaine prochaine pour À toi les étoiles. Merci de votre fidélité. À bientôt.